7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La radiographie du coronavirus. De nombreux patients se plaignent de symptômes persistants plusieurs semaines, voire plusieurs mois après leur infection à la Covid. Durant le premier confinement, plusieurs hashtags avaient vu le jour sur le réseau social Twitter, comme après J20 ou après J60, par le biais desquels des malades partageaient leurs symptômes. Depuis, des associations de patients ont été créées et réclament une meilleure prise en charge, alors que les scientifiques ont encore peu de recul sur les effets à long terme de cette maladie. Que sait-on des cas de long Covid ? Bonjour Pierre Tadevin.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes et président de la Société de pathologie infectieuse. Alors qu'est-ce qu'un cas de long Covid ? À partir de quand peut-on dire que c'est bien de cela dont il s'agit ?
Alors il n'y a pas une définition internationale qui fait consensus, mais on a tous l'impression que il y a à peu près la moitié des patients qui vont totalement récupérer en un mois, donc ceux-là ne seront pas concernés. Et ensuite, il y a une partie des patients qui va garder des symptômes plus longtemps. Donc c'est à partir du deuxième mois où on commence à se préoccuper de la possibilité d'un long Covid.
Mais alors, là aussi, quand on dit récupérer tous les symptômes, est-ce que, par exemple, l'odorat qui revient parfois après un mois, est-ce que ça, par exemple, c'est considéré comme un symptôme long si on l'a perdu pour plusieurs semaines ?
Oui, mais c'est quand même assez rare. Cette partie-là, on avait regardé, nous, on n'avait que 10% des gens qui avaient initialement des troubles de l'odorat qui l'avaient encore à 6 semaines, par exemple. Donc ça a l'air de récupérer assez simplement.
Alors, qu'est-ce qui est le moins bien récupéré dans ces cas de Covid long, Pierre Tadevin ?
Alors, il y a deux choses. Il y a la fatigue. Il y a des gens qui restent vraiment très fatigués longtemps après, même des gens qui étaient très dynamiques avant et très actifs. Et puis, il y a l'essoufflement.
Et ça dure pendant combien de temps ? Alors évidemment, vous avez peu de recul, mais pour ce que vous avez déjà eu l'occasion de constater.
Alors là, nous, on est à plus de 6 mois de la première vague en France et les équipes qui suivent encore des patients pour des Covid longs ont l'impression que ça peut, qu'il y a encore des gens qui restent fatigués ou essoufflés alors qu'on est à 7 ou 8 mois là, de la première vague. De moins en moins, c'est la bonne nouvelle. Mais tout le monde n'a pas encore récupéré la première vague.
Et j'imagine que vous n'avez pas la possibilité de savoir combien de temps ces symptômes peuvent durer après donc les constatations qui ont été faites.
Non. On voit juste la courbe et qui est plutôt rassurante. C'est-à-dire que c'est comme une grosse bosse aussi. Et sur la fin, là, on a de moins en moins de gens qui sont gênés.
Alors, quelles sont les théories aujourd'hui en présence qui permettent d'expliquer cette situation ? Est-ce que d'abord, il ne s'agit pas tout simplement d'un virus qui demeurerait en permanence dans l'organisme ?
Probablement pas. Déjà, ce virus-là n'est pas tellement équipé pour persister au long cours comme les virus des hépatites ou du sida, par exemple, ou de la mononucléose infectieuse. Et ensuite, la plupart des gens qui ont retesté le virus, soit directement par des PCR, soit par des sérologies, on n'a pas retrouvé d'éléments qui suggèrent qu'ils persistent, qu'ils continuent à se multiplier pendant des mois.
Donc, on est certain qu'on a affaire à des gens qui ont été atteints par le virus et qui sont encore malades, alors même qu'il n'y a plus de traces virales ?
Pour une partie d'entre eux, on est certain. Pour d'autres, c'est des gens qui ont pensé l'avoir fait pour la première vague, mais comme il y avait beaucoup de tests à l'époque, qui n'ont pas testé et qui, au décours, ont des symptômes évocateurs. Et parmi ceux-là, certains n'ont même pas la sérologie positive. Mais comme la sérologie a des défauts, ça ne veut pas dire que c'est pas ça.
Ça veut dire quoi ? Pas de sérologie positive ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'anticorps décelables ?
Oui, quelques-uns.
Quelques-uns, mais pas assez ?
Non, je veux dire quelques patients. Parmi la cohorte des patients qu'on suit qui pensent avoir des longs Covid, il y en a pour qui on n'a même pas la preuve qu'ils avaient vraiment eu un Covid au mois de mars ou avril. Mais ça ressemble beaucoup, les symptômes au décours ressemblent et du coup on les prend en charge comme tels.
Alors est-ce qu'il faut parler de rechute dans ces conditions, Pierre Tadevin ?
Non, ça, c'est pas un terme qu'on utiliserait parce que vraiment, il n'y a aucun signe. En général, d'ailleurs, ils n'ont pas de fièvre, mais ils n'ont pas non plus de présence du virus dans les prélèvements.
Bon, alors j'ai épuisé toutes mes hypothèses. C'est à vous, Pierre Tadevin, quelles sont aujourd'hui les différentes manières d'expliquer ou bien ces séquelles ou bien donc ces symptômes qui durent ?
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire preuve d'humilité. C'est quelque chose qu'on apprend progressivement avec ce virus. Là, on a beaucoup de choses à découvrir encore. Et l'autre chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas de dégâts objectivés quand on fait les différents examens. Beaucoup de choses ont été faites. Hein. D'abord, on a pensé que les poumons pouvaient avoir évolué vers une espèce de fibrose ou une altération du tissu. Et tous les scanners sont normaux. On a pensé aussi qu'ils avaient pu faire des embolies pulmonaires où ils bouchent les vaisseaux qui expliqueraient la fatigue et les difficultés respiratoires. Mais là encore, quand on regarde avec des moyens un peu spécifiques qu'on appelle les angioscanners, c'est normal. On a pensé que le cœur peut-être avait pu souffrir dans la bataille, mais les échographies du cœur, par exemple, qui est quelque chose d'assez précis pour voir si le muscle fonctionne bien, sont normaux. Et puis, il y a eu pas mal de prises de sang réalisées pour voir s'il y avait des anticorps, un syndrome inflammatoire qui persiste ou des choses comme ça. Là aussi, c'est négatif. Et enfin, on a pensé, quand les signes respiratoires sont au premier plan, que ça pouvait être comme un équivalent d'asthme, avec des bronches qui devenaient trop réactives et qui se constrictaient. Et là non plus, en général, on ne retrouve pas d'anomalie quand on fait des épreuves fonctionnelles respiratoires, quand on fait souffler les gens dans des tubes. Donc tous ces éléments, les examens normaux, c'est rassurant quelque part. On dit il n'y a rien d'abîmé, ça devrait refonctionner. Et en même temps, c'est un parcours difficile pour les patients d'enchaîner les examens normaux. Donc on les fait de moins en moins. Ça ne nous a pas fait beaucoup avancer pour les hypothèses. Et on essaie surtout d'accompagner les symptômes des patients et de les traiter.
Mais alors, pardonnez-moi pour que l'on comprenne bien. Ça veut dire que lorsque vous étudiez la manière dont ces patients respirent, par exemple, fonctionnellement, tout va bien, mais ils se plaignent d'essoufflement.
Bah, oui. Ah oui, c'est bien résumé.
Mais alors, comment expliquer ça? Parce que on a parlé, je crois, d'une hypoxie heureuse pour les malades du coronavirus, autrement dit des gens qui fonctionnellement étaient dans une situation où ils n'auraient pas pu bien respirer, mais en fait ils ne se rendaient pas compte à quel point leur sang était peu oxygéné. Et là, dans les Covid longs, ça serait l'inverse, c'est-à-dire que fonctionnellement tout irait bien, mais là ils seraient très essoufflés.
On peut dire ça comme ça, oui. C'est vraiment deux maladies très très différentes, hein, le Covid aigu à la phase aiguë et le Covid long.
Et du coup, qu'est-ce que l'on peut faire pour les prendre en charge? Est-ce que d'abord la dimension psychologique, parce que on pense à ça, la situation est évidemment une situation qui incite peu à l'optimisme. Du coup, on imagine qu'on peut avoir toutes sortes de maladies liées, je n'ose pas dire à des troubles psychosomatiques, mais enfin à une situation où le psychisme entrerait pour une large part.
Oui, on peut penser ça, et c'est vrai que ça joue un rôle, hein. On n'en a pas parlé, mais les gens avaient tendance à tousser aussi pendant plusieurs semaines. Et tousser au mois d'avril en France, là, quand les gens avaient un peu la phobie, c'était quelque chose de très difficile à vivre en groupe ou en famille. Donc, le retentissement psychologique du Covid long est difficile. Donc, on essaye parfois d'accompagner ça, de faire voir les patients par notre psychologue, par exemple, ou simplement de discuter avec eux. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus céder dans la sinistrose. C'est vraiment des symptômes qui s'améliorent.
Non, bah ça, je pense que vous pouvez même le répéter à 7h22. Il ne faut pas céder à la sinistrose.
Et par ailleurs, comme tous les examens sont normaux, on a vraiment de bonnes raisons de penser que les gens vont retrouver leur état de santé complet. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup parmi ces patients des gens qui vraiment sont très volontaires, essayent absolument de repartir et qui n'y arrivent pas, en tout cas pas immédiatement, parce que la maladie, elle les a laissés un peu épuisés, quoi. Bon, et c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais l'hypothèse la plus solide, sans doute, c'est que c'est des gens qui sont très bien défendus contre la maladie en général, hein, qui n'ont pas eu besoin d'aller à l'hôpital, qui sont restés quelques jours au repos et c'est tout. Et c'est peut-être un peu tout ce qu'ils ont engagé pour lutter contre le virus, dont ils payent un peu les frais pendant quelques mois. C'est le temps de récupérer de tous les efforts qu'ils ont dû faire pour s'en débarrasser.
Merci beaucoup Pierre Tadevin. Je rappelle que vous êtes infectiologue et chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes.